trouvé ça. C'est l'église, hein, ça s'appelle le Château du Paradis. Ça ne s'invente pas. Donc à Tumbré, vous avez un avant-goût du paradis. Hein. Je dis ça en passant. Voilà, merci pour vos prières. Merci de nous associer dans vos prières, comme nous, nous prions pour vous. Parce qu'on est dans le même... voilà. J'ai pas dit la même galère. Hein. Le même bateau, exactement. La même équipe. La même équipe. Voilà, alors pour ce matin, j'ai résisté à la tentation de recycler. Que vous savez, nous, prédicateurs, on a plein de choses. On ouvre des tiroirs comme ça, puis on peut sortir et puis recycler. Mais je dis non, Seigneur, pas de recyclage. Je veux une parole de toi pour l'église de Wavrin. Et donc, je suis resté un long moment dans le silence. C'est un challenge, hein? C'est vraiment un challenge. Parce que quand on n'entend rien, on se dit bon, on pense à recycler. Mais non. Et puis, c'est venu. Alors, j'ai foi que les paroles que je vous donne, elles sont pour vous en tant qu'église. J'en ai reçu deux, en fait trois. Ben, une qui est plus générale et qui pourrait s'appliquer à tout un chacun, et deux qui sont pour vous. Alors j'ai foi que le Seigneur va, que vous allez les recevoir ces paroles, et puis qu'elles vont vous parler et que vous allez les méditer pour vous, hein, personnellement, mais aussi en église. Et je vais avec vous commencer à méditer sur ces trois paroles. Voilà. Alors, la première parole, elle se trouve dans... On connaît, c'est des paroles que vous connaissez. Peut-être pas la troisième, mais en tout cas, la première, vous la connaissez sans doute. C'est Jésus, hein, on trouve ça dans Matthieu, au chapitre 16. Vous savez, quand Jésus fait un sondage auprès de ses disciples... Et puis il leur dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Et puis ensuite il s'adresse à eux, il dit, mais vous pensez quoi de moi? Je suis qui? Hein? Et puis il a différentes réponses. Et puis il y a la réponse de Pierre, hein, vous la connaissez, hein. Peut-être ouvrir le texte. Matthieu 16, 18 à 19. Alors c'est la réponse de Jésus à la réponse de Pierre. On connaît ce passage, hein, Matthieu 16. Donc, Pierre commence par donc c'est le verset 16, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Ah, c'est intéressant ça. C'est le Père lui-même qui révèle ça à Pierre. On le voit beaucoup à l'œuvre, le Père. J'y reviendrai dans les autres paroles. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc ou sur ce rocher, hein, ou cette roche, il paraît que dans le grec c'est féminin, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors, cette parole bien connue, je voudrais juste insister sur... Ah oui, alors je vais peut-être quand même continuer. Et il dit ensuite, parce que c'est lié, hein, il dit ensuite, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Je voudrais insister sur deux choses principalement. C'est d'abord l'engagement de Jésus qui dit, « Je bâtirai l'Église, mon Église. Je bâtirai mon Église. » Et ça doit d'abord nous rassurer, parce que c'est l'Église du Seigneur. Je le dis encore et encore, je le dis pour moi, je le dis pour vous. C'est l'Église du Seigneur, voilà. Et c'est lui qui est à la manœuvre. C'est lui qui aussi nous associe, voilà. Mais c'est son Église, voilà. Et ça doit aussi nous détendre. Peut-être nous mettons la pression, on voit les choses évoluer pas comme elles devraient évoluer, pense-t-on. Rappelons-nous que c'est l'œuvre du Seigneur. Je bâtirai. Puis si c'est Jésus qui le dit, cool quoi. Restons tranquilles quoi. C'est ton affaire. Merci Seigneur. et merci de m'associer, parce que nous sommes, hein, comme le dit Pierre, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens 3, il dit nous sommes collaborateurs avec Dieu, co-ouvriers avec lui. Dieu nous associe, il nous fait cet honneur de dire allez viens, tu vas faire aussi quelque chose pour moi, hein, dans mon entreprise. Dieu nous embauche dans son entreprise, nous sommes ses co-ouvriers avec Dieu. Voilà, donc ça c'est la première chose, je bâtirai mon église. Voilà. Bon, je ne vais pas développer sur le rocher. Bon, c'est les paroles de Jésus. Bon, il y a tout un, vous savez, il y a toute une interprétation, bon, catholique ou catholicisante. Mais bon, c'est pas le propos. Je voudrais juste insister sur je bâtirai mon église. Retenons cette parole. Et puis l'autre parole qui va avec, voilà. Et il s'adresse à Pierre, et au-delà de Pierre, il s'adresse à l'église, donc à nous tous. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et on verra tout à l'heure c'est quoi le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et c'est quoi les clés. Et c'est en rapport avec lier et délier. Hein, on en parlera peut-être aussi un peu tout à l'heure. Donc, ça c'est la deuxième chose. Hein, c'est Jésus est le chef, et il bâtit l'Église, et il nous associe, et il nous donne ensuite les clés du royaume. Et quant à l'enfer, hein, il y a cette parole, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Voyons pas une image défensive de l'Église qui reculerait devant les boutoirs de l'enfer, etc. C'est tout le contraire. C'est absolument tout le contraire. C'est une vision dynamique et offensive de l'Église qui défonce, en fait, les portes de l'enfer et qui arrache les âmes de l'enfer pour les transporter dans le royaume de Dieu. C'est exactement ça la dynamique du texte. C'est pas l'Église qui souffre des coups de boutoir de l'ennemi. C'est tout le contraire, dans la prière et le combat spirituel, l'Église qui est vainqueur. Et le rôle du lié et du délié, hein, c'est en rapport avec le combat spirituel à mener dans la prière. Hein, je vous renvoie à Éphésiens 6, hein, avec toutes les armes de Dieu. Mais c'est pas le propos. Hein, je voulais juste insister sur je bâtirai mon église, je vous donnerai les clés du royaume, et puis l'enfer ne pourra pas résister. Ça c'est la première parole pour vous, pour nous. Ensuite, bon, il y a un fil directeur, hein, les trois paroles sont en rapport avec l'église et puis aussi le royaume de Dieu. Maintenant la deuxième parole. Alors dans ma prière, je sentais dans mon esprit que le Seigneur voulait amener un correctif quant à notre vision de l'Église, et peut-être un correctif de la vision que nous avons de cette Église, ou que vous avez de cette Église. Je peux me tromper, bon, si je me trompe, c'est pas grave, hein, je vous invite à méditer sur cette parole quand même. Et cette parole, elle se trouve dans Éphésiens 5, justement, avant Éphésiens 6, qui nous parle du combat spirituel. Éphésiens 5, qui nous dit, alors c'est juste un verset qui nous parle de l'Église, hein. C'est dans le texte qui parle du mariage, de la relation entre l'homme et la femme, qui est le miroir ou le reflet de la relation entre Dieu et l'Église, hein, et Dieu et l'Église c'est une histoire d'amour, hein, comme Dieu et Israël c'est une histoire d'amour. Et on lit au verset 25, alors je m'attache simplement à cet aspect-là, hein. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible ou irréprochable. Disons d'abord que Dieu et l'Église, c'est une histoire d'amour. N'oublions jamais que, Christ le dit, hein, Christ a aimé l'Église. Hein, Christ a aimé l'Église. Et l'Église a été enfantée dans l'amour. Voilà. Et cet amour, il vient du Père, hein, car Dieu a tant aimé. C'est un amour du ciel, avant la fondation du monde. Hein, dans Éphésiens, il dit qu'on a été choisi avant la fondation du monde. C'est C'est une histoire d'amour. Okay. De même que avec Israël, c'est une histoire d'amour. Voilà. Et il y a des hauts et des bas. Surtout Israël et l'Église. Hein. Bon. Néanmoins, comment est-ce que Dieu voit l'Église? Voilà, ça c'est la première chose. Comment est-ce que Dieu voit l'Église? Eh bien, il la voit au travers de Jésus, il la voit sans tache, sans ride, ni rien de semblable, sainte, irrépréhensible. Voilà comment Dieu voit l'Église. Et nous, comment voyons-nous l'Église? Bonne question. Voilà, surtout si on a de l'âge, et puis de la mémoire, et une histoire, un historique, voire un passif. Ben, notre image de l'Église, notre vision de l'Église n'est pas peut-être si positive que ça. Et là, j'ai envie de vous dire, de nous dire, revêtons les lunettes du Seigneur et voyons l'Église comme lui la voit. Voilà. Voyons-la comme lui la voit. Et alignons notre vision de l'Église sur celle de Dieu. Parce que cette église, elle est belle. Elle est belle. C'est une épouse, hein. On l'a chanté, Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est l'épouse qui, à la fin, avec le Saint-Esprit, disent viens, viens. Dit ça à l'époux. C'est une histoire d'amour entre un époux et une épouse. Et l'épouse, elle est belle. Elle est belle. Même si après 2000 ans, on peut faire un bilan, on va dire, mitigé, et dire plein de choses, mais sur l'histoire de l'Église, avec un E majuscule, ça n'a pas toujours été brillant, lumineux, mais il y a eu quand même de très belles choses. Et je ne sais pas quelle est votre vision de votre Église, hein, je vois beaucoup de cheveux blancs, j'en ai aussi, mais j'ai envie de vous dire, voyez-la comme Dieu la voit. Voyez-la comme Dieu la voit. Voilà. Et si... vous avez des sujets de tristesse ou voilà, vous disant le bilan il est comme il est, ça pourrait être mieux, etc., etc. Eh bien, prenez la vision du Seigneur sur cette église de Wavrin, parce que cette église, comme nous dit le texte, elle est en devenir. J'employais un mot savant, elle est incoative. C'est-à-dire, elle est en devenir. Et il se passe tout un processus de purification et de sanctification que Christ lui-même opère. Hein? Il nous est dit, il la sanctifie et la purifie en la lavant par l'eau de la parole. Il y a dans purification un nettoyage. Voilà, il y a un nettoyage dans la purification. On enlève les impuretés. Voilà, et l'Église a eu besoin, et dans toute son histoire, besoin d'être purifiée, et c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y a eu des choses qui ont purifié, dans le bon sens, l'Église. Et nos Églises ont vécu aussi des moments où il y a eu des temps de purification, où on s'est passé par des moments de repentance, et on a remis les pendules à l'heure, comme on dit, il y a eu un nettoyage. Et puis il y a aussi... La sanctification. Et la sanctification, c'est quoi? C'est la mise à part. Hein? La mise à part. Et les cultes doivent être des temps de sanctification où on met du temps à part pour Dieu. Dans la prière, dans l'adoration, par le pain et le vin. Des temps de mise à part. Et Christ, il fait ça par sa parole. Et on n'insistera jamais assez sur la puissance de la parole. Hein, la puissance de la parole de Jésus. Hein, cette parole, vous regardez le ministère de Jésus, il a commencé dans Luc 4 par entrer dans le temple. On lui donne le rouleau de la loi qui parle d'Ésaïe 61 et il prend cette parole qui est très ancienne et le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles, pour libérer les captifs, etc. Vous connaissez ce texte. Et il dit, ce jour-là, cette parole aujourd'hui est accomplie. C'est une parole, voilà, qu'il a portée, qu'il a apportée, qu'il a incarnée, qu'il a mise en action et qu'il a transmise à ses disciples jusqu'à maintenant. Et c'est cette parole puissante qui opère des guérisons, qui opère des délivrances, qui opère des changements de vie. C'est cette parole purificatrice qui purifie l'Église, qui la libère, qui la sanctifie. Et c'est cette parole-là qui est efficace encore aujourd'hui et qui est pour vous, Église de Wavrin. C'est une parole qui ressuscite. C'est une parole qui libère les captifs. Et tout ce programme que Jésus a élaboré quand il est dans le temple, au début de son ministère, ensuite on le voit déployé dans tout son ministère, et après lui, les apôtres, les disciples et toute l'Église, jusqu'à maintenant. C'est une parole investie par la puissance de Dieu. Et puisque je suis dans Éphésiens, Éphésiens dans chapitre 4 nous parle de l'organigramme de ce qu'est l'Église avec les ministères, les cinq ministères, et 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 nous parle des dons. On a parlé tout à l'heure dans les chants des dons. Voilà ce que le Seigneur fait par la parole. Par la parole. Ça, c'est la deuxième parole pour vous. Changeons notre vision, peut-être, de l'Église et prenons la vision du Seigneur. L'Église du Seigneur, elle est belle. Elle est belle. Voilà. Elle est belle. Elle n'est pas ridée, elle n'est pas tachée, elle n'est pas souillée, elle est belle. Dieu la voit comme ça. Et voyons-la aussi comme ça. Et repentons-nous peut-être de la dénigrer. Moi, je me souviens d'une époque dans ma vie où on n'arrêtait pas, les chrétiens, n'arrêtait pas de critiquer. C'est pas comme ça, c'est pas bien, on devrait faire comme ça. Et puis c'était les jugements et les critiques. Et alors, tout le monde était découragé, c'était terrible. C'était franchement terrible. Et je pense qu'à cette époque, le cœur du Seigneur devait saigner, être triste et pleurer, parce que, voilà, on faisait du bien à personne. Sous prétexte d'être super spirituel, de sanctification, en fait, on se faisait du mal. Et personne n'était édifié. Dieu voit l'Église comme cela, je répète. Il l'a fait paraître devant lui, cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Irréprochable. Ça, c'est la deuxième parole, comment nous devons voir l'Église. La troisième parole, elle se trouve dans Luc, au chapitre 12, verset 32. C'est une parole assez surprenante, je trouve. Voilà ce que dit Jésus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père, encore le Père, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Encore le Père et encore le royaume de Dieu. Il n'y a que là qu'on trouve cette parole de Jésus. Alors, le contexte, c'est ça se place au milieu d'un discours de Jésus sur les inquiétudes et les soucis. Comme dans Matthieu 6, il y a tout un discours de Jésus. Ne vous inquiétez pas, regardez les oiseaux du ciel. Votre Père les nourrit, alors voilà. Et puis ici, il y a cette même parole. Et au verset 31, Jésus dit, cherchez d'abord plutôt le royaume de Dieu et sa justice, c'est dit ailleurs, et toutes choses vous seront données en plus, ou au-dessus, ou par-dessus. Et ensuite, le verset 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Prenez cette parole et chez vous, dans votre culte personnel, demain et après-demain, toute la semaine, et méditez sur cette parole, parce que c'est une parole pour vous, Église de Wavrin. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai reçue, donc je vous la donne. Alors je vais commencer un petit peu à méditer avec vous, Bon, peut-être que ça fera écho ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, prenez cette parole et les deux autres, et puis méditez-la pour vous, et demandez-vous, ça veut dire quoi pour vous? Alors, quelques pensées. Ici, Jésus dit cela à ses disciples, hein, il s'adresse à ses disciples, donc d'où le petit troupeau. Et il dit, il commence par dire, ne crains pas. Parce que si vous lisez tout le texte, il est assez radical dans ses propos, hein. Il dit qu'il ne faut pas s'attacher aux richesses, qu'elles pourrissent. Il dit ensuite, il dit, vendez tout ce que vous possédez, faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, etc. Donc ça peut être un peu paniquant d'entendre tout ça. Et au milieu de tout ça, il dit, n'ayez pas peur. Ne crains pas. Ne crains pas. Et puis, l'idée du petit troupeau, ça m'a touché. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça touchant que Dieu s'adresse, que Jésus s'adresse à ses disciples comme ça, comme petit troupeau. Voilà. Et c'est une parole pleine d'affection, moi, je trouve. Voilà. Je ne sais pas si vous avez jamais été touché par l'affection de Dieu. Moi, ça m'est parfois arrivé où j'ai vraiment senti que Dieu m'aimait, mais alors pas de façon globale, hein, Dieu nous aime, et puis non, mais personnellement. Et puis une fois, j'avais reçu une parole prophétique pour moi-même, mais ce qui m'a touché, ce n'est pas tellement la parole, mais comment Dieu s'est adressé à moi, et il m'a appelé par mon prénom. Oh, ça m'a... Oh. Vous voyez, quand vous entendez une parole de Dieu comme ça, Dieu s'adresse à moi, mais Daniel. Oh. Et je sens, en le lisant, je sens encore le Saint-Esprit. Ça m'a touché. Waouh. Parce que c'était, voilà, comme si Dieu mettait sa main sur mon épaule, s'intéressait à moi, me connaisse par mon nom, m'appelle par mon nom. Ça m'a touché. Ben, cette parole du petit troupeau, c'est un peu la même parole. Vous voyez, j'imagine Jésus en train de parler à ses disciples qui font des gros yeux, dire, voilà, c'est tout ce que tu demandes, c'est difficile. Et puis la main sur leurs épaules, il dit, vous inquiétez pas, petit troupeau. Voyez, voilà. Et puis, il y a cette parole étonnante, surprenante, votre Père. Ah, déjà, hein, tout à l'heure, on parlait du Notre Père. Votre Père. C'est d'ailleurs la mission de Jésus, c'est de nous révéler le Père. Hein. C'est ce que je dis dans ma dernière vidéo, là, qui est sortie hier ou avant-hier. Allez taper, je me tiens à la porte, vous verrez. Publicité. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. La formulation, elle est étonnante. J'imagine Dieu en train de dire à lui-même ou à son fils, allez, on leur donne quoi ? Le royaume de Dieu. Oh ! Alors là, il me faudrait des heures pour parler du royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, bon, vous savez, c'est le fil directeur des paroles de Jésus dans les évangiles, hein, le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est plein de bonnes choses. C'est tout un programme. C'est le fil directeur du ministère de Jésus, et puis après, dans le livre des Actes. Hein. Le royaume de Dieu, c'est quoi ? Eh bien, si on lit deux chapitres avant, dans le chapitre 10, quand Jésus envoie les 70 annoncer l'évangile, il leur donne des consignes précises, et puis il leur dit, bah, chaque fois que vous allez quelque part, dites que la paix du Seigneur soit sur vous. S'il y a quelques malades, guérissez-les. S'il y a des démoniaques, ben, chassez-les. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà. Voilà ce qu'est le royaume de Dieu. C'est des paroles, encore, qui font un effet extraordinaire sur les gens. Par des guérisons. Même des résurrections, par des miracles, des multiplications de nourriture, par la présence même de Dieu, par la sanctification aussi. Ça, c'est aussi un fruit du royaume de Dieu. Voilà, le royaume de Dieu, c'est là où Jésus est. Et J'ai Paul, qui avait une vision très profonde et très belle de l'Église et du royaume de Dieu. Il dit dans Romains 14, il dit ce que n'est pas le royaume de Dieu. Il dit le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais c'est, il y a trois choses, c'est la paix, la joie, l'amour par le Saint-Esprit. Voilà. Le royaume de Dieu, c'est pas du comestible, c'est pas une marchandise, c'est pas un objet, c'est quoi? C'est la joie, c'est la paix et c'est la justice. Voilà, par le Saint-Esprit. Et ces trois choses nous disent quoi? Nous disent qu'en fait le royaume de Dieu, voilà, c'est du relationnel. Voilà. Le royaume de Dieu, c'est un relationnel qui est visité par le Saint-Esprit. C'est ça. C'est un relationnel qui est enfin juste, qui est enfin vrai, parce qu'il est rempli par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. La joie, elle se voit, elle se communique. La justice, elle se voit dans des actes justes. La paix aussi, elle se communique. Vous voyez ? C'est ça le royaume de Dieu. Alors, je vais m'arrêter là parce que maintenant je vous donne ces trois versets, je vous les donne pour votre méditation. Hein? C'est quoi? Voilà. Je répète ces paroles. Hein? Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Ça, c'est la première parole. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et je vous donne les clés. Je pense que les clés sont en rapport avec le royaume de Dieu. Hein, et c'est des clés à trouver dans la prière. La deuxième parole, c'est quelle est notre vision de l'Église? Quelle est votre vision de l'Église? Et puis s'il y a un correctif à apporter, demandez au Seigneur, aide-moi à voir l'Église comme toi tu la vois, et peut-être aussi à aimer l'Église. Ouais. Ouais, voilà. Aimons l'Église. Aimons l'Église, c'est très important. Christ aime l'Église, hein. Ça m'apparaît maintenant, mais Christ aime l'Église. Hein. Le Père aime l'Église. Et nous, est-ce que nous aimons l'Église? C'est une bonne question, ça. Ben, ça ne m'était pas apparu, mais là, ça m'apparaît. Aimons-nous l'Église? Alors peut-être arrêtons de la critiquer. Arrêtons de la critiquer. Commençons à aimer l'Église. Aimer l'Église. Recevons les sentiments du Père. Parce que c'est ça, en fait. Petit troupeau, ne crains pas petit troupeau de wavrins, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà, nous avons notre... Voilà, c'est ça. Vous avez le royaume. Vous êtes le royaume. Le royaume de Dieu est ici, aussi, et aussi à Thumri et ailleurs, partout où le nom de Jésus est proclamé. Gardez ces paroles profondément dans votre cœur, que ça alimente votre méditation, que ça alimente vos prières. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, parce que ta parole, elle nous fait du bien, elle nous purifie, elle nous nettoie, elle nous sanctifie. Et Seigneur, je me rends compte que voilà, c'est des paroles qui me dépassent. Et je prie pour cette église, Seigneur, de Wavrin, qui m'accueille, et je prie pour qu'elle accueille aussi cette parole que tu m'as mise sur le cœur. Que cette parole que tu m'as donnée pour cette église soit reçue pleinement. Je la bénis, merci parce qu'elle est le corps du Christ ici, et que tu l'aimes. Et tu dis à cette église, petit troupeau, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et je prie que tu aides mes bien-aimés à se saisir par la foi, à se saisir de ce royaume qui nous est donné par le Père. Je bénis cette église, qu'elle soit en bénédiction pour cette ville, parce que l'église est un phare, elle est un phare dans là où elle est placée pour illuminer tous ses habitants. Je prie pour tous ses voisins, tous ces gens qui sont tout autour. La municipalité, les autorités. Je prie pour cette ville, Seigneur, qu'au travers de Wavrin, de cette église ici, eh bien, beaucoup, 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 beaucoup soient touchés par le salut. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.